Chers amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre émission L'invité de la semaine. Et aujourd'hui, et tout au long de cette semaine, c'est Lucile Gandolfi qui a le privilège de recevoir dans nos studios
Michel-Édouard Nigaglione, qui est le directeur des services du patrimoine de la ville de Bastia. Alors, bonjour Michel-Édouard. Nicole a bien dit le privilège, et c'est un véritable privilège que de vous avoir aujourd'hui à nos côtés.
C'est gentil.
Parce que vous êtes un garçon absolument extraordinaire, que moi j'ai connu il y a de pas mal d'années, lorsque vous étiez élève, toujours étudiant en histoire de l'art, et que je vous voyais de temps à autre crapahuter à la French Course avec le père André-Marie, donc chez qui vous cherchiez des renseignements pour les tableaux corses, puisque vous aviez fait un doctorat sur, un mémoire de doctorat
C'était un DEA
un
sur
DEA.
Les peintres actifs en Corse, des origines presque à toucher le 19e siècle.
Voilà, donc ça couvre une période importante. Moi, je sais, parce que j'ai mon petit doigt qui me dit beaucoup de choses, et j'ai lu dans la revue Acronica de Petrescrit que vous avez également fait parfois, je dirais, le travail d'un restaurateur.
Hein? Ouh, ça, il y a prescription.
Il y a prescription, mais vous savez quand même, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui regarde les peintures et qui les comprend et qui les lit, parce qu'il faut savoir lire la peinture, on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes aussi quelqu'un qui sait faire.
Mais ça, c'est une vieille tradition familiale, moi. On est tous nés avec un pinceau dans la famille.
Quelle merveille.
Donc, j'ai toujours vu mon grand-père, mon oncle, ma mère
donc
mettre
vous êtes une famille du Cap. Hein?
Oui, mais je suis un hybride. Je suis à moitié marseillais, ça s'entend encore. Et c'est du côté plutôt de ma mère, où on est artiste depuis de nombreuses générations.
Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Donc vous vous êtes par là même intéressé à l'histoire de l'art. Et puis maintenant donc vous êtes directeur des services du patrimoine de la ville de Bastia, ville dont le patrimoine est très riche. D'ailleurs vous êtes l'auteur des merveilleux ouvrages qui sont sortis sur chacune des églises de Bastia. Je pense que ces livres sont en librairie et je ne saurais trop conseiller à chacun de se les procurer. Voilà. Alors, Michel-Édouard, là, nous allons parler un petit peu de votre poste, de quoi s'agit-il, et ensuite nous parlerons de cette exposition magnifique qui a fait que nous avons eu envie de vous inviter ces jours-ci à nous parler de tout ça. Alors, votre charge, qui est très importante, je sais que vous avez très peu de moments de libre.
Mais je n'en ai pas beaucoup. Oui, ben en fait, mon service est chargé de gérer le patrimoine public de la ville. Le patrimoine, c'est essentiellement les églises. Donc, les églises, les chapelles, les oratoires de confrérie et toutes les œuvres d'art contenues à l'intérieur. Donc, nous veillons à l'entretien et à la restauration des œuvres. Et aussi, c'est important, la valorisation de ce patrimoine. Et puis, restaurer du patrimoine, c'est bien, mais il faut qu'il vive et que ça rapporte quelque chose à la ville aussi. Donc, il faut le faire connaître. Et nous, à Bastia, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de plage paradisiaque, mais on a un patrimoine exceptionnel au niveau régional. Donc, c'est notre atout. Et ça, la ville, vraiment, tient à le défendre bec et ongles.
Ah oui, à juste titre, parce que c'est vrai que Bastia a un patrimoine fabuleux. D'ailleurs, en Corse, la moindre église baroque a de très belles choses.
Mais c'est notre passé de capitale, en fait. Oui. Nous sommes capitale historique, donc c'est vrai qu'à l'époque génoise, tout se faisait à Bastia. La présence du gouverneur, d'un évêque installé dans le palais épiscopal de la citadelle, tout ça, ça a permis, et les nombreux couvents.
Et oui, nous étions la capitale du règne di Corsica. N'oublions pas que Ajaccio n'est capitale que depuis l'Empire.
Voilà.
nous avons eu, et puis la période baroque qui a été la plus belle finalement, c'est passé à Bastia.
Voilà.
Alors là, justement, vous disiez faire vivre le patrimoine. Moi, j'ai assisté parfois même à la bibliothèque, à des projections, une projection que vous nous aviez faite avec une jolie conférence sur de l'orfèvrerie des églises de Bastia. Il y a eu une fois à Saint-Charles une exposition sur les objets liturgiques, chasubles, etc. Donc ça, c'est toujours le patrimoine qui vit. Mais maintenant que le musée va bientôt réouvrir et que des salles sont déjà ouvertes, eh bien vous avez un lieu fabuleux. Et c'est là que vous avez fait l'exposition dont vous allez nous parler un peu. la très belle
exposition.
C'est
une vitrine, en fait, oui. Le musée, grâce aux salles d'exposition temporaires qui sont un bel espace.
Alors, cette exposition, il n'y a pas que des dames, je suppose, qui la visitent, non ?
Ah non, bon. Ben, de toute façon, vous savez, là, même, bon, c'est une exposition qui est tournée sur la mode et le vêtement, mais moi-même, je ne suis pas une dame et je suis passionné par la chose.
Ben oui. Non.
Parce que
oui.
Tout bêtement, c'est extrêmement intéressant, parce que le vêtement nous permet de dater les tableaux, les portraits, donc les historiens doivent obligatoirement s'intéresser au costume et à l'histoire du costume.
Ah oui, ça c'est clair, et puis d'autant plus que ce sont des costumes bastiais qui ont été prêtés par des familles bastiaises authentiques, donc il y a quand même un côté, une charge émotionnelle dans cette exposition. Alors, pouvez-vous nous dire plus précisément de quoi il s'agit ? C'est vrai que c'est passionnant parce que les tissus sont d'une beauté sans pareil. Et puis, ça nous parle parce qu'il y a des uniformes. Je suppose que vous avez l'uniforme de préfet du second maire de Bastia, de Jean-Baptiste Galeazzini.
Voilà, on n'a pas pu tout exposer, on a fait une sélection. Le catalogue, il y a beaucoup plus de choses dans le catalogue que dans l'expo elle-même, parce qu'on était quand même soumis à un impératif de place. Et puis, il y a aussi des vêtements très très fragiles qu'on n'a pas pu exposer. Donc, on a mis des panneaux photographiques et ils sont dans le catalogue.
Oui, certaines robes, je crois, justement.
Voilà.
Et puis, parce qu'il n'y a pas que des robes, il y a des vêtements de magistrats. Expliquez-moi un peu tout ça.
Alors, ben, les vêtements de magistrats proviennent du palais Carafe. Voilà, donc en fait, à l'origine, c'est l'achat par la ville en 2003 du palais Carafe pour l'ouvrir à la visite et faire, non pas un vrai musée, mais un parcours muséal, un petit peu pour en complément du palais des gouverneurs et du musée municipal, pour que le public à la fois touristique, bastier, scolaire ait l'occasion de voir avec leurs yeux ce qu'était que le cadre de vie des notables bastiers de la période baroque ou du 19e siècle. Et on voulait aussi être un petit peu le contrepoint du musée de Corté, qui est très tourné sur la civilisation rurale en Corse. Nous, à Bastia, on veut parler de la civilisation urbaine.
Urbaine, bien sûr. Surtout que le Palais Carafe, je vais quand même préciser un peu pour nos éditeurs, c'est cette maison merveilleuse qui est juste à la droite de l'église Saint-Charles.
Tout à fait.
L'église Saint-Charles avec ce parvis baroque magnifique. Disons, c'est un des plus beaux endroits de Bastia. Et la propriétaire, Madame Jeanne-Renée Brandzi de Carafe, y a vécu donc jusqu'à la vente de cette maison. Et moi, j'avais eu la chance de voir quelques robes. Elle m'avait ouvert un petit peu la chambre du fond où étaient exposées les robes.
Oui.
Vous devez vous en souvenir.
Oui, tout à fait.
Voilà, et donc, c'est absolument fabuleux. Et c'est un moyen pour les Bastiais de se réapproprier un peu leur passé, comme ça avait été d'ailleurs fait l'an dernier avec l'exposition des photos de la même famille.
Tout à fait, oui.
Voilà, des photos qui montraient, elles aussi, non seulement des vêtements, mais c'était des gens en situation, en train de vivre. On voyait comment.
Oui, on avait là, justement, parce que les notables sont toujours intéressés à la modernité. Et donc, les Carafe ont été parmi les premières familles de la ville à faire de la photographie en amateur. En amateur très éclairé, parce que donc Tito de Carafe a commencé à photographier dans les années 1896 et jusqu'à la guerre de 14. Et c'est avec vraiment un sens artistique, c'est de très haut niveau, mais c'était des photos qui n'étaient pas destinées à être publiées, c'était pour son plaisir personnel. Et on a retrouvé les négatifs sur plaque de verre dans le grenier. Et bon, c'est vrai qu'il y a 3000 et quelques négatifs, il y en a plus d'une centaine sur la ville de Bastia.
C'est énorme.
Et c'est un regard intéressant parce que c'est un regard non pas pour les touristes, il n'a pas voulu faire comme les photographes de l'époque, comme Gradiani, photographier la femme à la cruche à côté de la fontaine pour faire couleur locale. Non, là, il a photographié les Bastiais dans leur vie quotidienne en ne squeezant pas les notables Bastiais en costume de ville, dirais-je, un petit peu... qui n'intéressait pas le touriste parce que les mêmes costumes à Marseille ou à Paris, donc ils se fichaient un petit peu de.
Mais pour nous, que l'on a réduit si souvent à la robe noire, et... non, il est vrai que finalement c'est encore plus surprenant pour nous, Corses.
Tout à fait, parce qu'on en était venu même à oublier cet aspect-là de la chose. Et c'est vrai que maintenant, On a tendance à se voir, à voir la société corse à travers les yeux de Mérimée, à travers les yeux des écrivains la fin du 19e siècle.
Qui ne nous ont pas flattés.
Ben non, parce qu'ils ont voulu faire couleur locale, oui. Ils ont voulu faire exotique, oui. Ils ont voulu faire intéressant et différent de ce qu'ils connaissaient sur le continent. Donc il fallait absolument dire, ah les Corses, ils ont des mœurs particulières, ils s'habillent différemment, voilà.
C'est exact. Et donc, oui, c'est vrai que nous, on a toujours eu, puis la Corse continue à avoir des choses qui la distinguent, enfin qui la distinguent pas toujours dans le bon sens, des masques qu'on nous colle. Et c'est pour ça, quand on voit une société où les femmes étaient aussi élégantes qu'à Paris, c'était la comtesse de Béarn, donc vieux nom français, le comte de Béarn.
Mais qui était la fille du comte Valéry.
Voilà, qui était la fille du comte Valéry.
Donc Cap-Corsin.
Cap-Corsin qui était ravie de recevoir... les caisses qui apportaient ces robes et qui arrivaient de Paris. Donc on était vraiment à la pointe, à Bastia.
Tout à fait. Et puis dès les origines, parce que quand on voit l'évolution de la mode à Bastia, dès le XVIe siècle, la notabilité bastiaise est habillée comme la notabilité génoise, et les Génois s'habillent comme les Espagnols, parce qu'au XVIe siècle, c'est l'Espagne qui éblouit l'Europe, qui est très riche, et donc c'est l'Espagne qui donne le ton. Après, par la suite, c'est Louis XIV qui va renverser la vapeur, et à ce moment-là, à Gênes, on va commencer à s'habiller à la française, à partir du règne de Louis XIV. Et bien entendu, à Bastia, c'est pareil. Donc on suit, à partir du règne de Louis XIV, on s'habille à la française à Bastia. Et au XVIIIe siècle, c'est la mode française qui a cours.
Bien sûr. Puis en plus, là, il y a eu la présence du roi de France et de ses troupes.
Voilà.
Alors, nous poursuivrons notre rencontre avec les notables bastiais des siècles passés et avec Michel-Édouard Nigalioni demain. Donc, nous vous donnons rendez-vous à demain, chers auditeurs. Au revoir, Michel-Édouard, et à demain pour une autre émission.